Chapitre 34. Un petit divertissement. Robespierre entra. Il tenait Saint-Just par la main. Celui-ci, vêtu d'une redingote poudreuse, pâle et défait, arrivait à Paris. Robespierre jeta sur nous deux un coup d'œil rapide sous ses lunettes, et la distance où il nous vit l'un de l'autre me parut lui plaire. Il sourit en pinçant les lèvres. « Un citoyen, voici un voyageur de votre connaissance, » dit-il. Nous nous saluâmes tous trois. Joseph Chénier en fronçant les sourcils, Saint-Just avec un signe de tête brusque et hautain, moi gravement comme un moine. Saint-Just s'assit à côté de Robespierre, celui-ci sur son fauteuil de cuir, devant son bureau, nous en face. Il y eut un long silence. Je regardais les trois personnages tour à tour. Chénier se renversait et se balançait avec un air de fierté, mais un peu d'embarras, sur sa chaise, comme rêvant à mille choses étrangères. Saint-Just, l'air parfaitement calme, penchait sur l'épaule sa belle tête mélancolique régulière et douce, chargée de cheveux châtains flottants et bouclés. Ses grands yeux s'élevaient au ciel et il soupirait. Il avait l'air d'un jeune saint. Les persécuteurs prennent souvent des manières de victimes. Robespierre nous regardait comme un chat ferait de trois souris qu'il a prises. « Voilà, dit Robespierre d'un air de fête, notre ami Saint-Just qui revient d'armée. Il y a écrasé la trahison, il en fera autant ici. » C'est une surprise, on ne l'attendait pas, n'est-ce pas, Chénier ? Il le regarda de côté comme pour jouir de sa contrainte. « Oh, tu m'as fait demander, citoyen, » dit Marie-Joseph Chénier avec humeur. « Oh, si c'est pour affaire, dépêchons-nous, on m'attend à la convention. »« Oh, je voulais, » dit Robespierre d'un air empesé, en me désignant, « te faire rencontrer avec cet excellent homme qui parle tant d'intérêt à ta famille. J'étais pris. » Marie-Joseph et moi, nous nous regardâmes et nous nous révélâmes toutes nos craintes par ce coup d'œil. Je voulus rompre les chiens. « Ma foi, dis-je, j'aime les lettres, moi, et Fénelon. »« Ah, à propos, » interrompit Robespierre, « je te fais compliment, Chénier, du succès de ton Timoléon. Dans les ci-devant salons, tu en as fait la lecture. »« Tu ne connais pas cela, toi, » dit-il à Saint-Just avec ironie. Celui-ci sourit d'un air de mépris et se mit à secouer la poussière de ses bottes avec le pan de sa longue redingote, sans daigner répondre. « Bon, bon, » dit Joseph Chénier en me regardant, « c'est trop peu de choses pour lui. » Il voulait dire cela avec indifférence, mais le sang d'auteur lui monta aux joues. Saint-Just, aussi parfaitement calme qu'à l'ordinaire, leva les yeux sur Chénier et le contempla comme avec admiration. Un membre de la Convention qui s'abuse à cela en l'an deux de la République me paraît un prodige, dit-il. Ma foi, quand on n'a pas la haute main dans les affaires, dit Joseph Chénier, c'est encore ce qu'on peut faire de mieux pour la nation. Saint-Just haussa les épaules. Robespierre tira sa montre comme attendant quelque chose et dit d'un air pédant. « Tu sais, citoyen Chénier, mon opinion sur les écrivains. Je t'excepte parce que je connais tes vertus républicaines, mais en général, je les regarde comme les plus dangereux ennemis de la patrie. Il faut une volonté une. Nous en sommes là. Il le faut républicaine, et pour cela, il ne faut que des écrits républicains, le reste corrompt le peuple. Il faut le rallier, ce peuple, et vaincre les bourgeois. » De qui deviennent nos dangers intérieurs. Il faut que le peuple s'allie à la Convention et elle à lui, que les sans-culottes soient payés, colérés et restent dans les villes. Qui s'oppose à mes vues? Les écrivains, les faiseurs de vers qui font du dédain rimé, qui crient « Oh mon âme, fuyons dans les déserts !» Mais ces gens-là découragent. La Convention doit traiter tous ceux qui ne sont pas utiles à la République comme des contre-révolutionnaires. C'est bien sévère, dit Marie-Joseph, assez effrayée. mais plus piqué encore. « Oh, je ne parle pas pour toi, » poursuivit Robespierre d'un ton mielleux et radouci. « Toi, tu as été un guerrier, tu es législateur et, quand tu ne sais que faire, poète. »« Ah, pas du tout, pas du tout, » dit Joseph singulièrement vexé. « Je suis au contraire né poète et j'ai perdu mon temps à l'armée et à la convention. » J'avoue que, malgré la gravité de la situation, je ne pus m'empêcher de sourire de son embarras. Son frère aurait pu parler ainsi, mais Joseph, selon moi, se trompait un peu sur lui-même. Aussi l'incorruptible, qui était au fond de mon avis, poursuivit pour le tourmenter. « Allons, allons, » dit-il avec une galanterie fausse et fade, « allons, tu es trop modeste. Tu refuses deux couronnes de laurier pour une couronne de roses pompons. » Mais il me semblait que tu aimais ces fleurs-là toi-même autrefois, citoyen, dit Chénier. J'ai lu de toi des couplets fort agréables sur une coupe et un festin. Oh, il y avait. Ô Dieu, que vois-je, mes amis, un crime trop notoire. Ô malheur affreux, ô scandale honteux. Je n'osais le dire à peine, pour vous j'en rougis, pour moi j'en gémis. Ma coupe n'est pas pleine, et puis un certain madrigal où il y avait « Garde toujours ta modestie sur le pouvoir de tes appas, demeure toujours à l'armée, tu n'en seras que mieux aimé si tu crains de ne l'être pas. » C'était joli. Oh, et nous avons aussi deux discours sur la peine de mort, l'un contre l'opourtre, et puis un éloge de Grasset où il y avait cette belle phrase que je me rappelle encore tout entière. « Oh, lisez le vers vert, vous qui aspirez au mérite de badiner et d'écrire avec grâce. Lisez-le, vous qui ne cherchez que l'amusement, et vous connaîtrez de nouvelles sources de plaisir. Oui, tant que la langue française subsistera, le vers vert trouvera des admirateurs. Grâce au pouvoir du génie, les aventures d'un perroquet occuperont encore nos derniers neveux. » Une foule de héros est restée plongée dans un éternel oubli, parce qu'elle n'a point trouvé une plume digne de célébrer ses exploits. Mais toi, heureux vers vert, ta gloire passera à la postérité la plus reculée. Ô Grasset, tu fus le plus grand des poètes. Répandons des fleurs, etc., etc., etc. C'était fort agréable. J'ai encore cela chez moi, imprimé sous le nom de Monsieur de Robespierre, avocat en Parlement. L'homme n'était pas commode à persifler. Il fit de sa face de chat une face de tigre et crispa les ongles. Saint-Just, ennuyé et voulant l'interrompre, lui prit le bras. À quelle heure t'attends-t-on, Jacobin? « Bon, plus tard, » dit Robespierre avec humeur, « laisse-moi, je m'amuse. » Le rire dont il accompagna ce mot fit claquer ses dents. « Oh, j'attends quelqu'un, » ajouta-t-il. « Mais toi, Saint-Just, que fais-tu des poètes ?»« Bien, je te l'ai lu, » dit Saint-Just. « Ils ont un dixième chapitre de mes institutions. »« Alors bien, qui font-ils » Saint-Just fit une moue de mépris et regarda autour de lui à ses pieds, comme s'il eût cherché une épingle perdue sur le tapis. « Mais, dit-il, des hymnes qu'on leur commandera le premier jour de chaque mois, l'honneur de l'Éternel, et des bons citoyens, comme le voulait Platon. Le premier germinal, ils célébreront la nature et le peuple, en floréal, l'amour et les époux, en prairial, la victoire, en messidor, l'adoption. » En thermidor, la jeunesse, en fructidor, le bonheur, en vendémiaire, la vieillesse, en brumaire, l'âme immortelle, en frimaire, la sagesse, en ivrose, la patrie, en pluviose, le travail, et en ventose, les amis. Robespierre applaudit, mais c'est parfaitement réglé, dit-il. Et l'inspiration ou la mort, dit Joseph Chénier en riant. Saint-Just se leva gravement. « Et pourquoi pas, dit-il, si leur vertu patriotique ne les enflamme pas. Il n'y a que deux principes, la vertu ou la terreur. » Ensuite, il baissa la tête et demeura tranquillement, le dos à la cheminée, comme ayant tout dit, et convaincu dans sa conscience qu'il savait toutes choses. Son calme était parfait, sa voix inaltérable et sa physionomie candide, extatique et régulière. « Voilà l'homme que j'appellerais un poète, » dit Robespierre en le montrant. « Il voit en grand, lui, il ne s'amuse pas à des formes de style plus ou moins habiles. Il jette des mots comme des éclairs dans les ténèbres de l'avenir. Et il sent que la destinée des hommes secondaires qui s'occupent du détail des idées est de mettre en œuvre les nôtres, que nulle race n'est plus dangereuse pour la liberté, plus ennemie de l'égalité que celle des aristocrates de l'intelligence, dont les réputations isolées exercent une influence partielle, dangereuse et contraire à l'unité qui doit tout régir. » Après sa phrase, il nous regarda. Nous nous regardions. Nous étions stupéfaits. Saint-Just approuvait du geste et caressait ses opinions jalouses et dominatrices, opinions que se feront toujours les pouvoirs qui s'acquièrent par l'action et le mouvement pour tâcher de dompter ces puissances mystérieuses et indépendantes qui ne se forment que par la méditation qui produit leurs œuvres et l'admiration qu'elles excitent. Les parvenus, favoris de la fortune, seront éternellement irrités comme maman contre ces sévères mardochés qui viennent s'asseoir, couverts de cendres, sur les degrés de leur palais, refusant seuls de les adorer, et les forçant parfois de descendre de leur cheval et de tenir en main la bride du leur. Joseph Chénier ne savait comment revenir de l'étonnement où il était d'entendre de pareilles choses. Enfin, le caractère emporté de sa famille prit le dessus. « Au fait, me dit-il, j'ai connu dans ma vie des poètes à qui il ne manquait pour l'être qu'une chose, c'était la poésie. » Robespierre cassa une plume dans ses doigts et prit un journal, comme n'ayant pas entendu. Saint-Just, qui était au fond assez naïf et tout d'une pièce comme un écolier non dégrossi, prit la chose au sérieux et il se mit à parler de lui-même avec une satisfaction sans bornes et une innocence qui m'affligeait pour lui. « Le citoyen Chénier a raison, » dit-il en regardant fixement le mur devant lui, sans voir autre chose que son idée. « Je sens bien que j'étais poète, moi, quand j'ai dit « Les grands hommes ne meurent pas dans leur lit, et les circonstances ne sont difficiles que pour ceux qui reculent devant le tombeau. Et je méprise la poussière qui me compose et qui vous parle. Et la société n'est pas l'ouvrage de l'homme. Le bien même est souvent un moyen d'intrigue. Soyons ingrats si nous voulons sauver la patrie. » Oh, ce sont, dis-je, belles maximes et paradoxes, plus ou moins spartiates et plus ou moins connus, mais non de la poésie. Saint-Just me tourna le dos brusquement et avec humeur. Nous tûmes tous quatre. La conversation en était arrivée à ce point où l'on ne pouvait plus ajouter un mot qui ne fût un coup, et Marie-Joseph et moi n'étions pas les plus accoutumés à frapper. Nous sortîmes d'embarras d'une manière imprévue, car tout à coup, Robespierre prit une petite clochette sur son bureau et sonna vivement. Un nègre entra et introduisit un homme âgé qui, à peine laissé dans la chambre, resta saisi d'étonnement et d'effroi. « Mais voici encore quelqu'un de votre connaissance, » dit Robespierre. « Je vous ai préparé à tous une petite entrevue. » C'était M. de Chénier en présence de son fils. Je frémis de tout mon corps. Le père recula, le fils baissa les yeux, puis me regarda. Robespierre riait, et Saint-Just le regardait pour deviner. Ce fut le vieillard qui rompit le silence le premier. Tout dépendait de lui et personne ne pouvait plus le faire taire ou le faire parler. Nous attendîmes comme on attend un coup de hache. Il s'avança avec dignité vers son fils. « Il y a longtemps que je ne vous ai vu, monsieur, » dit-il. « Je vous fais l'honneur de croire que vous venez pour le même motif que moi. Ce Marie-Joseph Chénier, si hautain, si grand, si fort, si farouche, était ployé en deux par la contrainte et la douleur. « Mon père, » dit-il lentement, en pesant sur chaque syllabe, « mon Dieu, mais mon père, avez-vous bien réfléchi à ce que vous allez dire ?» Le père ouvrit la bouche, le fils se hâta de parler haut pour étouffer sa voix. « Je sais, devine à peu de choses près l'affaire, » et se tournant vers Robespierre en souriant, « affaire bien légère, fut-il en vérité ?» Et à son père, « Donc, vous voulez parler, mais je crois que vous auriez pu me la remettre entre les mains, je suis député, moi, je sais. »« Monsieur, je sais ce que vous êtes, » dit monsieur le Chénier. « Non, en vérité, dit Joseph en s'approchant, vous n'en savez rien, absolument rien. »« Oh, il y a si longtemps, citoyen, qu'il a voulu me voir, mon pauvre père. Il ne sait pas seulement ce qui se passe dans la République. Je suis sûr de ce qu'il vient de vous dire, il n'en est pas même bien certain. » Et il lui marcha sur le pied. Mais le vieillard se recula de lui. « C'est votre devoir, monsieur, que je veux remplir moi-même, puisque vous ne le faites pas. »« Oh, Dieu du ciel et de la terre !» s'écria Marie-Joseph au supplice. « Ah, ne sont-ils pas curieux, tous les deux ?» dit Robespierre à Saint-Just d'une voix aigre et en jouissant horriblement. « Mais qu'ont-ils donc à crier tant ?»« J'ai, » dit le vieux père en s'avançant vers Robespierre, « j'ai le désespoir dans le cœur en voyant. »« Citoyen, » dit Joseph Chénier à Robespierre, « permets-moi de te parler en particulier ou d'emmener mon père d'ici un moment. Je le crois malade et un peu troublé. »« Impie, » dit le vieillard, « peux-tu être aussi mauvais fils que mauvais ?»« Monsieur, » dis-je en lui coupant la parole, « il était inutile de me consulter ce matin. » « Non, non, » dit Robespierre avec sa voix aiguë et son incroyable sang-froid. « Non, ma foi, je ne veux pas que ton père me quitte, Chénier. Je vais donner audience, il faut bien que je l'écoute. »« Et pourquoi donc veux-tu qu'il s'en aille ? Que crains-tu donc qu'il m'apprenne ? Ne sais-je pas à peu près tout ce qui se passe, et même tes ordonnances du matin, docteur ?»« Ah, c'est fini, » dis-je en retombant accablé sur ma chaise. Marie-Joseph, par un dernier effort, s'avança hardiment et se plaça de force entre son père et Robespierre. « Après tout, » dit-il à celui-ci, « nous sommes égaux, nous sommes frères, n'est-ce pas ? Eh bien moi, je puis te dire, citoyen, des choses que tout autre qu'un représentant à la Convention nationale n'aurait pas le droit de te dire, n'est-ce pas ? Eh bien, je te dis que mon bon père, que voici, mon bon vieux père, qui me déteste à présent parce que je suis député, va te conter quelque affaire de famille bien au-dessous de tes graves occupations. Vois-tu, citoyen Robespierre, tu as de grandes affaires, toi. Tu es seul, tu marches seul. Toutes ces choses d'intérieur, ces petites brouilleries, tu les ignores, heureusement pour toi. Tu ne dois pas t'en occuper. » Et il le prenait par les deux mains. « Non, non, je ne veux pas absolument que tu l'écoutes, vois-tu, je veux pas. » Et faisant le rieur, « Mais c'est que ce sont vos niaiseries qu'il va te dire. » Et en bavardant plus bas, « Quelques plaintes de ma conduite passée, de vieilles idées monarchiques qu'il a. Je ne sais quoi, moi, écoute mon ami, toi, notre grand citoyen, notre maître, oui, oui, je le pense franchement, notre maître, va, va, tes affaires à l'Assemblée où l'on t'écoute. Ou plutôt, tiens, renvoie-nous. Oui, tiens, franchement, mets-nous à la porte, nous sommes de trop. Bon, messieurs, nous sommes indiscrets, partons. » Il prenait son chapeau, pâle et haletant, couvert de sueur, tremblant. « Allons, docteur, allons, mon père, j'ai à vous parler. Nous sommes indiscrets. » « Et Saint-Just, donc, qui arrive de si loin pour le voir, de l'armée du Nord, n'est-il pas vrai, Saint-Just ? » ?»« Il allait, il venait, il avait les larmes aux yeux, il prenait Robespierre par le bras, son père par les épaules, il était fou. Robespierre se leva et, avec un air de bonté perfide, tendit la main au vieillard par devant son fils. Le père crut tout sauvé. Nous sentîmes tout perdu. Monsieur de Chénier s'attendrit de ce geste comme font les vieillards faibles. « Oh, vous êtes bon !» s'écria-t-il. « C'est un système que vous avez, n'est-ce pas ? C'est un système qui fait qu'on vous croit mauvais. Allez, rendez-moi mon fils aîné, monsieur de Robespierre. Rendez-le-moi, je vous en conjure. Il est un Salazar. C'est bien le meilleur des deux, allez, vous ne le connaissez pas. Il vous admire beaucoup, il admire tous ces messieurs aussi. Il m'en parle souvent. Il n'est point exagéré du tout, quoi qu'on ait pu vous dire. Celui-ci a peur de se compromettre, elle ne vous a pas parlé. Mais moi, qui suis père, monsieur, et oh, qui suis bien vieux, je n'ai pas peur. D'ailleurs, vous êtes un homme comme il faut, il s'agit que de voir votre air et vos manières. Et avec un homme comme vous, on s'entend toujours, n'est-ce pas ? Puis à son fils, « Oh, ne me faites point de signe, ne m'interrompez pas, vous m'importunez. Laissez monsieur agir selon son cœur. Il s'attend un peu mieux que vous, en gouvernement, peut-être. Vous avez toujours été jaloux d'André, d'être votre enfance. Allez, laissez-moi, ne me parlez pas. » Le malheureux frère, il n'aurait pas parlé, il était muet de douleur, et moi aussi. « Oh !» dit Robespierre en s'asseyant et ôtant ses lunettes paisiblement et avec soulagement. « Voilà donc leur grande affaire. Dis donc, Saint-Just, ne s'imaginait-il pas que j'ignorais l'emprisonnement du petit frère ? Mais ces gens-là me croient fou, en vérité. Cependant, il est bien vrai que je me serais préoccupé de lui d'ici à quelques jours. Eh bien, ajouta-t-il en prenant sa plume maigrifonnant, on va faire passer l'affaire de ton fils. Voilà, dis-je en étouffant. Comment passer ? Dit le père interdit. Oui, citoyen, dit Saint-Just, en lui expliquant froidement la chose. Passer au tribunal révolutionnaire où il pourra se défendre. « Et André ?» dit M. de Chénier. « Lui, répondit Saint-Just, à la conciergerie. »« Mais il n'y avait pas de mandat d'arrêt contre André, » dit son père. « Eh bien, il dira cela au tribunal, » répondit Robespierre. « Tant mieux pour lui. » Et en parlant, il écrivait toujours. « Mais à quoi bon l'y envoyer ?» disait le pauvre vieillard. « Bien, pour qu'il se justifie, » répondait aussi froidement Robespierre, écrivant toujours. « Mais l'écoutera-t-on ? » dit Marie-Joseph. Robespierre mit ses lunettes et le regarda fixement. Ses yeux luisaient sous leurs yeux verts comme ceux des hiboux. « Soupçonnes-tu l'intégrité du tribunal révolutionnaire ? » dit-il. Marie-Joseph baissa la tête et dit « Non !» en soupirant profondément. Saint-Just dit gravement, « Oh, le tribunal absout, quelquefois. »« Oh, quelquefois, » dit le père, tremblant et debout. « Dis donc, Saint-Just, » reprit Robespierre en recommençant à écrire, « Sais-tu que c'est aussi un poète, celui-là ? Justement, nous parlions d'eux, et il parle de nous. Tiens, voilà une gentillesse de sa façon. C'est tout nouveau, n'est-il pas vrai, docteur ? Dis donc, Saint-Just, il nous appelle bourreaux barbouilleurs de loi. Rien que cela, dit Saint-Just en prenant le papier, que je ne reconnus que trop, et qu'il avait fait dérober par ses merveilleux espions. Tout à coup, Robespierre tira sa montre, se leva brusquement et dit « Oh, 2 heures !» Il nous salua et courut à la porte de sa chambre par laquelle il était entré avec Saint-Just. Il l'ouvrit, entra le premier et à demi dans l'autre appartement, où j'aperçus des hommes et, laissant sa main sur la clé, comme avec une sorte de crainte et prêt à nous fermer la porte au nez, dit d'une voix aigre, fausse et ferme, « Mais ceci est seulement pour vous faire voir que je sais tout ce qui se passe assez promptement. » Puis se tournant vers Saint-Just, qui le suivait paisiblement avec un sourire ineffable de douceur. Dis donc, Saint-Jumet, je crois que je m'entends aussi bien que les poètes à composer des scènes de famille. Attends, Maximilien, cria Marie-Joseph en lui montrant le poing et en s'en allant par la porte opposée, qui cette fois sourit d'elle-même. Je vais à la convention avec Tallien. Et moi aux Jacobins, dit Robespierre avec sécheresse et orgueil. Avec Saint-Just, ajouta Saint-Just d'une voix terrible. En suivant Marie-Joseph pour sortir de la tanière, reprenez votre second fils, dis-je au père, car vous venez de tuer l'aîné. Et nous sortîmes sans oser nous retourner pour le voir. Chapitre 35. Un soir d'été. Ma première action fut de cacher Joseph Chénier. Personne alors, malgré la terreur, ne refusait son toit à une tête menacée. Je trouvai 20 maisons. J'en choisis une pour Marie-Joseph. Il s'y laissa conduire en pleurant comme un enfant. Caché le jour, il courait la nuit chez tous les représentants, ses amis, pour leur donner du courage. Il était navré de douleur, il ne parlait plus que pour rater le renversement de Robespierre, de Saint-Just et de Couthon. Il ne vivait plus que de cette idée. Je m'y livrais comme lui je me cachais. J'étais partout, excepté chez moi. Quand Joseph Chénier se rendait à la convention, il entrait et sortait, entouré d'amis et de représentants auxquels on osait toucher. Une fois dehors, on le faisait disparaître, et la troupe même des espions de Robespierre, la plus subtile volée de sauterelles qui jamais se soit abattue sur Paris comme une plaie, ne put trouver sa trace. La tête d'André Chénier dépendait d'une question de temps. Il s'agissait de savoir ce qui mûrirait le plus vite, ou la colère de Robespierre, ou la colère des conjurés. Dès la première nuit qui suivit cette triste scène du 5 au 6 Thermidor, nous visitâmes tous ceux qu'on nomma depuis Thermidorien, tous depuis Tallien jusqu'à Barras, depuis Lecointre jusqu'à Vadier. Nous les judicions d'attention sans les rassembler. Chacun était décidé, mais tous ne l'étaient pas. Je revins triste. Voici le résultat de ce que j'avais vu. La République était minée et contre-minée. La mine de Robespierre partait de l'hôtel de ville, la contre-mine de Tallien des Tuileries. Et le jour où les mineurs se rencontreraient serait le jour de l'explosion. Mais il y avait unité du côté de Robespierre, désunion dans les conventionnels qui attendaient son attaque. Nos efforts pour les presser de commencer n'aboutirent cette nuit et la nuit suivante du 6 au 7 qu'à des conférences timides et partielles. Les Jacobins étaient prêts dès longtemps. La convention voulait attendre les premiers coups. Le 7, quand le jour vint, on en était là. Paris sentait la terre remuer sous lui. L'événement futur se respirait dans les carrefours, comme il arrive toujours ici. Les places étaient encombrées de parleurs. Les portes étaient béantes, les fenêtres questionnaient les rues. Nous n'avions rien pu savoir de Saint-Lazare. Je m'y étais montré. On m'avait fermé la porte avec fureur et presque arrêté. J'avais perdu la journée en recherche vaine. Vers 6 heures du soir, des groupes couraient les places publiques. Des hommes agités jetaient une nouvelle dans les rassemblements et s'enfuyaient. On disait: les sections vont prendre les armes, on conspire à la convention. Les Jacobins conspirent. La commune suspend les décrets de la convention. Oh, les canonniers viennent de passer. On criait: grande pétition des Jacobins à la convention en faveur du peuple. Quelquefois, toute une rue courait, s'enfuyait sans savoir pourquoi, comme balayée par le vent. Alors les enfants tombaient, les femmes criaient, les volets des boutiques se fermaient, et puis le silence régnait pour un peu de temps, jusqu'à ce qu'un nouveau trouble vint tout remuer. Le soleil était voilé comme par un commencement d'orage. La chaleur était étouffante. Je rôdais autour de ma maison de la place de la Révolution, et pensant tout d'un coup qu'après 2 nuits, ce serait là qu'on me chercherait le moins, je passais l'arcade et j'entrais. Toutes les portes étaient ouvertes, les portiers dans les rues. Je montais, j'entrais seul. Je trouvais tout comme je l'avais laissé. Mes livres épars et un peu poudreux, mes fenêtres ouvertes. Je me reposais un moment près de la fenêtre qui donnait sur la place. Tout en réfléchissant, je regardais d'en haut ces tuileries éternellement régnantes et tristes, avec leurs marronniers verts, et la longue maison sur la longue terrasse des feuillants. Les arbres des Champs-Élysées, tout blancs de poussière, la place toute noire de têtes d'hommes et au milieu, l'une devant l'autre, deux choses de bois peint, la statue de la liberté et la guillotine. Cette soirée était pesante. Puis le soleil se cachait derrière les arbres et sous le nuage lourd et bleu en se couchant, puis il lançait des rayons obliques et coupés sur les bonnets rouges et les chapeaux noirs. Lueur triste qui donnait à cette foule agitée l'aspect d'une mer sombre tachetée par des flaques de sang. Les voix confuses n'arrivaient plus à la hauteur de mes fenêtres les plus voisines du toit que comme la voix des vagues de l'océan, et le roulement lointain du tonnerre ajoutait à cette sombre illusion. Les murmures prirent tout d'un coup un accroissement prodigieux, et je vis toutes les têtes et les bras se tourner vers les boulevards que je ne pouvais apercevoir. Quelque chose qui venait de là excitait les cris et les huées, le mouvement et la lutte. Je me penchais inutilement, rien ne paraissait, et les cris ne cessaient pas. Un désir invincible de voir me fit oublier ma situation. Je voulus sortir, mais j'entendis sur l'escalier une querelle qui me fit bientôt fermer la porte. Des hommes voulaient monter, et le portier, convaincu de mon absence, leur montrait par ses clés doubles que je n'habitais plus la maison. Deux voix nouvelles survinrent et dirent que c'était vrai, qu'on avait tout retourné, il y avait 1 heure. Oh, j'étais arrivé à temps. On descendait avec grand regret. À leurs imprécations, je reconnus de quelle part étaient venus ces hommes. Force me fut de retourner tristement à ma fenêtre, prisonnier chez moi. Le grand bruit croissait de minute en minute, et un bruit supérieur s'approchait de la place comme le bruit des canons au milieu de la fusillade. Un flot immense de peuple armé de piques enfonça la vaste mer du peuple désarmé de la place, et je vis enfin la cause de ce tumulte sinistre. C'était une charrette, mais une charrette peinte de rouge et chargée de plus de 80 corps vivants. Ils étaient tous debout, pressés l'un contre l'autre. Toutes les tailles, tous les âges étaient liés en faisceaux. Tous avaient la tête découverte et l'on voyait des cheveux blancs, des têtes sans cheveux, de petites têtes blondes à la hauteur de ceinture, des robes blanches, des habits de paysans, d'officiers, de prêtres, de bourgeois. J'aperçus même 2 femmes qui portaient leur enfant à la mamelle et nourrissaient jusqu'à la fin, comme pour léguer à leur fils tout leur lait, tout leur sang et toute leur vie qu'on allait prendre. Bon, je vous l'ai dit, cela s'appelait une fournée. La charge était si pesante que 3 chevaux ne pouvaient la traîner. D'ailleurs, et c'était la cause du bruit, à chaque pas on arrêtait la voiture et le peuple jetait de grands cris. Les chevaux reculaient l'un sur l'autre et la charrette était comme assiégée. Alors, par-dessus leurs gardes, les condamnés tendaient les bras à leurs amis. On eût dit une nacelle surchargée qui va faire naufrage et que du bord on veut sauver. À chaque essai des gendarmes et des sans-culottes pour marcher en avant, le peuple jetait un cri immense et refoulait le cortège avec toutes ses poitrines et toutes ses épaules. Et interposant devant l'arrêt son tardif et terrible veto, il criait d'une voix longue, confuse, croissante, qui venait à la fois de la Seine, des ponts, des quais, des avenues, des arbres, des bornes et des pavés. « Non, non, non !» À chacune de ces grandes marées d'hommes, la charrette se balançait sur ses roues comme un vaisseau sur ses ancres, et elle était presque soulevée avec toute sa charge. J'espérais toujours l'avoir versée. Le cœur me battait violemment. J'étais tout entier hors de ma fenêtre, enivré et étourdi par la grandeur du spectacle. Je ne respirais pas, j'avais toute l'âme et toute la vie dans les yeux. Dans l'exaltation où m'élevait cette grande vue, il me semblait que le ciel et la terre y étaient acteurs. De temps à autre venait du nuage un petit éclair comme un signal. La face noire des Tuileries devenait rouge et sanglante. Les deux grands carrés d'arbres se renversaient en arrière comme ayant horreur. Alors le peuple gémissait, et après sa grande voix, celle du nuage reprenait et roulait tristement. L'ombre commençait à s'étendre, celle de l'orage avant celle de la nuit. Une poussière sèche volait au-dessus des têtes et cachait souvent à mes yeux tout le tableau. Cependant, je ne pouvais arracher ma vue de cette charrette ballottée. Je lui tendais les bras d'en haut, je jetais des cris inentendus. J'invoquais le peuple, je lui disais « Courage !» Et ensuite, je regardais si le ciel ne ferait pas quelque chose. Je m'écriais « Encore 3 jours, encore 3 jours !»« Ô Providence, ô destin, ô puissance à jamais inconnue !» Ô vous le Dieu, vous les esprits, vous les maîtres, les éternels, si vous entendez, arrêtez-les pour 3 jours encore. La charrette allait toujours pas à pas, lentement heurtée, arrêtée, mais hélas, en avant. Les troupes s'accroissaient autour d'elle. Entre la guillotine et la liberté, les baïonnettes luisaient en masse. Là semblait être le port où la chaloupe était attendue. Le peuple las du sang, le peuple irrité, murmurait davantage, mais il agissait moins qu'en commençant. Je tremblais, mes dents se choquèrent. Avec mes yeux, j'avais vu l'ensemble du tableau. Et pour voir le détail, je pris une longue vue. La charrette était déjà éloignée de moi en avant. J'y reconnus pourtant un homme en habit gris, les mains derrière le dos. Je ne sais si elles étaient attachées. Je ne doutais pas que ce ne fût André Chénier. La voiture s'arrêta encore, on se battait. Je vis un homme en bonnet rouge monter sur les planches de la guillotine et arranger un panier. Ma vue se troublait. Je quittai ma lunette pour essuyer le verre et mes yeux. L'aspect général de la place changeait à mesure que la lutte changeait de terrain. Chaque pas que les chevaux gagnaient semblait au peuple une défaite qu'il éprouvait. Les cris étaient moins furieux et plus douloureux. La foule s'accroissait pourtant et empêchait la marche plus que jamais, par le nombre plus que par la résistance. Je repris la longue vue et je revis les malheureux embarqués qui dominaient de tout le corps les têtes de la multitude. Oh, j'aurais pu les compter en ce moment. Les femmes m'étaient inconnues. J'y distinguais de pauvres paysannes, mais non les femmes que je craignais d'y voir. Les hommes, je les avais vus à Saint-Lazare. André causait en regardant le soleil couchant. Mon âme s'unit à la sienne, et tandis que mon œil suivait de loin le mouvement de ses lèvres, ma bouche disait tout haut ses derniers vers. Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr, anime la fin d'un beau jour, Au pied de l'échafaud, j'essaye encore ma lyre. Peut-être est-ce bientôt mon tour. Tout à coup, un mouvement violent qu'il fit me força de quitter ma lunette et de regarder toute la place où je n'entendais plus de cris. Le mouvement de la multitude était devenu rétrograde tout à coup. Les quais, si remplis, si encombrés, se vidaient. Les masses se coupaient en groupes en familles, les familles en individus. Aux extrémités de la place, on courait pour s'enfuir dans une grande poussière. Les femmes couvraient leurs têtes et leurs enfants de leurs robes. La colère était éteinte. Il pleuvait. Qui connaît Paris comprendra ceci. Moi, je l'ai vu. Et depuis encore, je l'ai revu dans des circonstances graves et grandes. Aux cris tumultueux, aux jurements, aux longues vociférations, succédèrent des murmures plaintifs qui semblaient un sinistre adieu, de lentes et rares exclamations dont les notes prolongées, basses et descendantes, exprimaient l'abandon de la résistance et gémissaient sur leur faiblesse. La nation, humiliée, ployait le dos et roulait par troupeaux entre une fausse statue, une liberté qui n'était que l'image d'une image, et un réel échafaud teint de son meilleur sang. Ceux qui se pressaient voulaient voir ou voulaient s'enfuir. Nul ne voulait rien empêcher. Les bourreaux saisirent le moment, la mer était calme, et leur hideuse barque arriva à bon port. La guillotine leva son bras. En ce moment, plus aucune voix, plus aucun mouvement sur toute l'étendue de la place. Le bruit clair et monotone d'une large pluie était le seul qui se fit entendre, comme celui d'un immense arrosoir. Les larges rayons d'eau s'étendaient devant mes yeux et sillonnaient l'espace. Mes jambes tremblaient et il me fut nécessaire d'être à genoux. Là, je regardais, j'écoutais, sans respirer. La pluie était encore assez transparente pour que ma lunette me fît apercevoir la couleur du vêtement qui s'élevait entre les poteaux. Je voyais aussi un jour blanc entre le bras et le billot. Et quand une ombre comblait cet intervalle, je fermais les yeux. Un grand cri des spectateurs m'avertissait de les rouvrir. 32 fois je baissais la tête ainsi, disant tout haut une prière désespérée que nulle oreille humaine n'entendra jamais et que moi seul j'ai pu concevoir. Après le 33e cri, je vis l'habit gris tout debout. Cette fois, je résolus d'honorer le courage de son génie en ayant le courage de voir toute sa mort. Je me levai. La tête roula et ce qu'il avait là s'enfuit avec le sang. Chapitre 36. Un tour de roue. Ici, le docteur Noir fut quelque temps sans pouvoir continuer. Tout à coup, il se leva et dit ce qui suit, en marchant vivement dans la chambre de Stello. Une rage effroyable me saisit alors. Je sortis violemment de ma chambre en criant sur l'escalier. « Les bourreaux, les scélérats, livrez-moi si vous voulez, venez me chercher, me voilà !» Et j'allongeai ma tête comme la présentante au couteau. J'étais dans le délire. Et que faisais-je? Je le trouvais sur les marches de l'escalier que deux petits enfants, ceux du portier. Leur innocente présence m'arrêta. Ils se tenaient par la main et, tout effrayés de me voir, se serraient contre la muraille pour me laisser passer comme un fou que j'étais. Je m'arrêtais et je me demandais où j'allais et comment cette mort transportait ainsi celui qui en avait tant vu mourir. Je redevins à l'instant maître de moi, et me repentant profondément d'avoir été assez insensé pour espérer pendant un quart d'heure de ma vie, je redevins l'impassible spectateur des choses que je fus toujours. J'interrogeai ces enfants sur mon canonnier, Il était venu depuis le 5 Termineur tous les matins à 8 heures. Il avait brossé mes habits et dormi près du poêle. Ensuite, ne me voyant pas venir, il était parti sans questionner personne. Je demandai aux enfants où était leur père, mais il était allé sur la place voir la cérémonie. Moi, je l'avais trop bien vu. Je descendis plus lentement et, pour satisfaire le désir violent qui me restait, celui de voir comment se conduirait la destinée, et s'il aurait l'audace d'ajouter le triomphe général de Robespierre à ce triomphe partiel. Oh, je n'en aurais pas été surpris. La foule était si grande encore et si attentive sur la place que je sortis sans être vu par ma grande porte ouverte et vide. Là, je me mis à marcher, les yeux baissés sans sentir la pluie. La nuit ne tarda pas à venir. Je marchais toujours en pensant. Partout, j'entendais à mes oreilles les cris populaires, le roulement lointain de l'orage, le bruissement régulier de la pluie. Partout, je croyais voir la statue et l'échafaud se regardant tristement par-dessus les têtes vivantes et les têtes coupées. J'avais la fièvre. Continuellement, j'étais arrêté dans les rues par des troupes qui passaient, par des hommes qui couraient en foule. Je m'arrêtais, je laissais passer, et mes yeux baissés ne pouvaient regarder que le pavé luisant, glissant et lavé par la pluie. Je voyais mes pieds marcher, et je ne savais pas où ils allaient. Je réfléchissais sagement, je raisonnais longuement, logiquement. Je voyais nettement et j'agissais en insensé. L'air avait été rafraîchi, la pluie avait séché dans les rues et sur moi, sans que je m'en fusse aperçu. Je suivais les quais, je passais les ponts, je les repassais, cherchant à marcher seul sans être coudoyé, et je ne pouvais y réussir. J'avais du peuple à côté de moi, du peuple devant, du peuple derrière, du peuple dans la tête, du peuple partout. Oh, c'était insupportable. On me croisait, on me poussait, on me serrait. Je m'arrêtais alors et m'asseyais sur une borne ou sur une barrière. Je continuais à réfléchir. Tous les traits du tableau me revenaient plus colorés devant les yeux. Je revoyais les Tuileries rouges, la place houleuse et noire, le gros nuage et la grande statue et la grande guillotine se regardant. Alors je partais de nouveau. Le peuple me reprenait, me heurtait et me roulait encore. Je le fuyais machinalement, mais sans en être importuné. Au contraire, la foule berce et endort. J'aurais voulu qu'elle s'occupât de moi pour être délivrée par l'extérieur de l'intérieur de moi-même. La moitié de la nuit se passa ainsi dans un vagabondage de fou. Enfin, comme je m'étais assis sur le parapet d'un quai, et que l'on m'y pressait encore, je levai les yeux et regardai autour de moi et devant moi. J'étais devant l'hôtel de ville. Je le reconnus à ce cadran lumineux éteint depuis, rallumé renouvellement, tel qu'on le voit et qui, tout rouge alors, ressemblait de loin à une large lune de sang sur laquelle des heures magiques étaient marquées. Le cadran disait minuit et 20 minutes. Je crus rêver. Ce qui m'étonna surtout fut de voir réellement autour de moi une quantité d'hommes assemblés. Sur la grève, sur les quais, partout on allait sans savoir où. Devant l'hôtel de ville, surtout, on regardait une grande fenêtre éclairée. C'était celle du conseil de la commune. Sur les marches du vieux palais était rangé un bataillon épais d'hommes en bonnet rouge, armés de piques et chantant la Marseillaise. Et le reste du peuple était dans la stupeur et parlait à voix basse. Je pris la sinistre résolution d'aller chez Joseph Chénier. J'arrivai bientôt à une étroite rue de l'île Saint-Louis où il s'était réfugié. Une vieille femme, notre confidente, qui m'ouvrit en tremblant après m'avoir fait longtemps attendre, me dit qu'il dormait, qu'il était bien content de sa journée, qu'il avait reçu 10 représentants sans oser sortir, que demain on allait attaquer Robespierre et que le 9, il irait avec moi délivrer M. André, qu'il prenait des forces. L'éveiller pour lui dire « Ton frère est mort, tu arriveras trop tard. Tu crieras « Mon frère » et l'on ne te répondra pas. Tu diras « Je voulais le sauver » et l'on ne te croira jamais, ni pendant ta vie, ni après ta mort. Et tous les jours, on t'écrira « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ?» L'éveiller pour lui dire cela, oh non. Qu'il prenne des forces, dis-je, il en aura besoin demain. Et je recommençais dans la rue ma nocturne marche, résolu de ne pas rentrer chez moi, que l'événement ne fût accompli. Je passais la nuit à rôder de l'hôtel de ville au palais national, des Tuileries à l'hôtel de ville. Tout Paris semblait aussi bivouaqué. Le jour du 8 Thermidor se leva bientôt, très brillant. Ce fut un bien long jour que celui-là. Je vis du dehors le combat intérieur du grand corps de la République. Au palais national, contre l'ordinaire, le silence était sur la place et le bruit dans le château. Le peuple attendit encore son arrêt tout le jour, mais vainement. Les partis se formaient. La commune enrôlait des sections entières de la garde nationale. Les jacobins étaient ardents à pérorer dans les groupes. On portait des armes, on les entendait essayer par des explosions inquiétantes. La nuit revint et l'on apprit seulement que Robespierre était plus fort que jamais et qu'il avait frappé d'un discours puissant ses ennemis de la Convention. Mais quoi, il ne tomberait pas, quoi, il vivrait, il tuerait, il régnerait. Qui aurait eu cette autre nuit un toit, un lit, un sommeil? Personne autour de moi ne s'en souvint. Et moi, je ne quittais pas la place. J'y vécus, j'y pris racine. Il arriva enfin le second jour, le jour de crise, et mes yeux fatigués le saluèrent de loin. La dispute foudroyante hurla tout le jour encore dans le palais qu'elle faisait trembler. Quand un cri, quand un mot s'envolait au dehors, il bouleversait Paris et tout changeait de face. Les dés étaient jetés sur le tapis et les têtes aussi. Quelquefois, un des pâles joueurs venait respirer et s'essuyer le front à une fenêtre. Alors le peuple lui demandait avec anxiété qui avait gagné la partie où il était joué lui-même. Tout à coup, on apprend, avec la fin du jour et de la séance, on apprend qu'un cri étrange, inattendu, imprévu, inouï, a été jeté. À bas le tyran ! Et que Robespierre est en prison. La guerre commence aussitôt. Chacun court à son poste. Les tambours roulent, les armes brillent et les cris s'élèvent. L'hôtel de ville gémit avec son tocsin et semble appeler son maître. Les Tuileries se hérissent de fer. Robespierre, reconquis, règne en son palais. L'assemblée dans le sien. Toute la nuit, la commune et la convention appellent à leur secours et mutuellement s'excommunient. Le peuple était flottant entre ces deux puissances. Les citoyens erraient par les rues, s'appelant, s'interrogeant, se trompant et craignant de se perdre eux-mêmes et la nation. Beaucoup demeuraient en place et, frappant le pavé de la crosse de leurs fusils, s'y appuyaient le menton en attendant le jour et la vérité. Il était minuit. J'étais sur la plage du Carrousel lorsque 10 pièces de canon y arrivèrent. À la lueur des mèches allumées et de quelques torches, je vis que les officiers plaçaient leurs pièces avec indifférence sur la place, comme en un parc d'artillerie, les unes braquées contre le Louvre, les autres vers la rivière. Ils n'avaient dans les ordres qu'ils donnaient aucune intention décidée. Ils s'arrêtèrent et descendirent de cheval, ne sachant guère à la disposition de qui ils venaient se mettre. Les canonniers se couchèrent à terre. Comme je m'approchais d'eux, j'en remarquai un, le plus fatigué peut-être, mais à coup sûr le plus grand de tous, qui s'était établi commodément sur l'affût de sa pièce et commençait à ronfler déjà. Je secouai par le bras, C'était mon paisible canonnier, c'était Blaireau. Il se gratta la tête un moment avec un peu d'embarras, me regarda sous le nez, puis me reconnaissant, se releva de toute son étendue assez languissamment. Ses camarades, habitués à le vénérer comme chef de pièce, vinrent pour l'aider à quelques manœuvres. Il allongea un peu ses bras et ses jambes pour se dégourdir et leur dit « Oh, restez, restez, allez, ce n'est rien. C'est le citoyen que voilà qui vient boire un peu la goutte avec moi, hein ?» Les camarades recouchés ou éloignés. « Eh bien, dis-je, mon grand blaireau, qu'est-ce donc qui arrive aujourd'hui ?» Il prit la mèche de son canon et s'amusa à y allumer sa pipe. « Oh, ce pas grand-chose, me dit-il. « Diable, dis-je. » Il huma sa pipe avec bruit et la mit en train. « Oh, mon Dieu, non, pas la peine de faire attention à ça. » Il tourna la tête par-dessus ses hautes épaules pour regarder d'un air de mépris le palais national des Tuileries avec toutes ses fenêtres éclairées. « Bon, c'est, me dit-il, un tas d'avocats qui chamaillent là-bas, et c'est tout. »« Ah, mais ça ne te fait pas d'autre effet à toi, lui dis-je, en prenant un ton cavalier et voulant lui frapper sur l'épaule, mais n'y arrivant pas. » « Bon, pas davantage, me dit Blaireau avec un air de supériorité incontestable. Je m'assis sur son affût et je rentrai en moi-même. J'avais honte de mon peu de philosophie à côté de lui. Cependant, j'avais peine à ne pas faire attention à ce que je voyais. Le carrousel se chargeait de bataillons qui venaient se serrer en masse devant les Tuileries et se reconnaissaient avec précaution. C'était la section de la montagne, celle de Guillaume Tell, celle des gardes françaises et de la fontaine Grenelle qui se rangeait autour de la Convention. Mais était-ce pour la cerner ou la défendre? Comme je me faisais cette question, des chevaux accoururent. Ils enflammaient le pavé de leurs pieds, ils vinrent droit au canonnier. Un gros homme, qu'on distinguait mal à la lueur des torches, et qui beuglait d'une étrange façon, devançait tous les autres. Il brandissait un grand sabre courbe et criait de loin. « Citoyens canonniers, à vos pièces, je suis le général Henriot. Criez « Vive Robespierre, mes enfants !»« Les traîtres sont là, en forme. Brûlez-leur un peu la moustache. Faudra voir s'ils feront aller les bons enfants comme ils voudront. C'est que je suis là, moi. Vous me connaissez bien, mes fils, pas vrai ?» Pas un mot de réponse. Il chancelait sur son cheval et, se renversant en arrière, soutenait son gros corps sur les rênes et faisait cabrer le pauvre animal qui n'en pouvait plus. « Eh bien, où sont donc les officiers d'ici, mille dieux » continuait-il. « Vive la nation, Dieu de Dieu, et Robespierre, les amis !»« Allons, nous sommes des sans-culottes et de bons garçons qui ne nous bouchons pas du pied, n'est-ce pas? Vous me connaissez, hein? Eh bien, vous savez, canonnier, j'ai pas froid aux yeux, moi. Allez, tournez-moi vos pièces sur cette baraque où sont tous les filous et les grenades de la Convention. » Un officier s'approcha et lui dit « Salut !» Ben, allez, va te coucher, je ne suis pas ni vu ni connu. Tu m'ennuies. » Un second dit au premier. Ben, dis donc, toi, on ne sait pas, en fait, s'il n'est pas général, ce vieil ivrogne. Oh, ben, qu'est-ce que ça me fait, dit le premier, et il s'assit. Mario écumait. Ben, je te fendrai le crâne comme un melon si tu n'obéis pas, mille tonnerres. « Oh, pas de ça, Lisette !» reprit l'officier en lui montrant le bout d'un écouvillon. « Tiens-toi tranquille, s'il vous plaît, citoyen !» Les espèces d'aides de camp qui suivaient Henriot s'efforçaient inutilement d'enlever les officiers et de les décider. Ils les écoutaient beaucoup moins encore que leurs gros buveurs de général. Le vin, le sang, la colère étranglaient l'ignoble Henriot. Il criait, il jurait Dieu, il maugréait, il hurlait. Il se frappait la poitrine. Il descendait le cheval et se jetait par terre. Il remontait et perdait son chapeau à grandes plumes. Il courait de la droite à la gauche et embarrassait les pieds du cheval dans les affûts. Les canonniers le regardaient sans se déranger, riaient. Les citoyens armés venaient le regarder avec des chandelles et des torches et riaient. Henriot recevait de grossières injures et rendait des imprécations de cabaretier saoul. « Oh, le gros sanglier !» Sanglier sans défense. « Oh, qu'est-ce qu'il nous veut, le porc empanaché ?» Et il criait « À moi, les bons sans-culottes, à moi, les solides à trois poils, que j'extermine toute cette enragée canaille de Thalien, fendons la gorge à Boissy d'Anglas, éventrons Colomb d'Herbois, coupons le sifflet à Merlin-Thionville, faisons un rachid conventionnel sur le bio-Varenne, mes enfants !» « Allons, dit l'adjudant-major des canonniers, commence par faire demi-tour, vieux fou. Allez, on v'là assez. C'est assez de parade comme ça. Tu passeras pas. » En même temps, il donna un coup de pommeau de sabre dans le nez du cheval d'Henriot. Le pauvre animal se mit à courir dans la place du carrousel. Emportant son gros maître, dont le sabre et le chapeau traînaient à terre, et renversant sur son chemin des soldats, pris par le dos des femmes qui étaient venues accompagner les sections, et le pauvre petit garçon accourut pour regarder, comme tout le monde. L'ivrogne revint encore à la charge et avec un peu plus de bon sens. Le froid sur la tête et le galop l'avait un peu dégrisé. Dit à un autre officier, « Songe bien, citoyen, que l'ordre de faire feu sur la Convention « c'est de la Commune que je te l'apporte, et de la part de Robespierre, Saint-Just et Couthon. J'ai le commandement sur toute la garnison, tu entends, citoyen ?» L'autre ôta son chapeau, mais il répondit avec un sang-froid parfait. « Oh, donne-moi un ordre par écrit, citoyen. Crois-tu que je serais assez bête pour faire le feu sans preuve d'ordre ?»« Oui, pas mal. » Oh, je ne suis pas au service d'hier, va, pour me faire guillotiner demain. Donne-moi un ordre signé, et je brûle le palais national et la convention comme un paquet d'allumettes. » Là-dessus, il retroussa sa moustache et tourna le dos. Autrement, ajouta-t-il, ordonne le feu toi-même aux artilleurs, et je ne soufflerai pas. Henriot le prit au mot, il vint droit à Blaireau. Canonnier, dit-il, je te connais. Blaireau ouvrit de grands yeux hébétés et dit « Tiens, il me connaît. Je t'ordonne de tourner la pièce sur le mur là-bas et de faire feu. » Blaireau bâilla. Puis il se mit à l'ouvrage et d'un tour de bras, la pièce fut braquée. Il ploya ses grands genoux et, en pointeur expérimenté, ajusta le canon, mettant en ligne les deux points de mire vis-à-vis la plus grande fenêtre allumée du château. Henriot triomphait. Blaireau se redressa de toute sa hauteur et dit à ses quatre camarades qui se tenaient à leur poste pour servir la pièce, deux à droite et deux à gauche, « Non, c'est pas tout à fait ça, mes petits amis. Un petit tour de roue encore. » Moi, je regardais cette roue du canon qui tournait en avant, puis retournait en arrière, et je crus voir la roue mythologique de la fortune. Oui, c'était elle. C'était elle-même réalisée en vérité. À cette roue était suspendu le destin du monde. Si elle allait en avant et pointait la pièce, Robespierre était vainqueur. En ce moment même, les conventionnels avaient appris l'arrivée d'Henriot. En ce moment même, ils s'asseyaient pour mourir sur leur chaise curule. Le peuple des tribunes s'était enfui et les racontait autour de nous. Si le canon faisait feu, l'assemblée se séparait et les sections réunies passaient aux joues de la commune. La terreur s'affermissait, puis s'adoucissait, puis restait. Restait un Richard III ou un Cromwell, ou après un octave, qui sait ? Je ne respirais pas, je regardais, je ne voulais rien dire. Si j'avais dit un mot à Blaireau, si j'avais mis un grain de sable, souffle d'un geste sous la roue, je l'aurais fait reculer. Mais non, je n'osais le faire, je voulus voir ce que le destin seul enfanterait. Il y avait un petit trottoir usé devant la pièce. Les quatre servants ne pouvaient y poser également les roues qui glissaient toujours en arrière. Blaireau recula et se croisa les bras en artiste découragé et mécontent. Il fit la boue. Il se tourna vers un officier d'artillerie. « Lieutenant, c'est trop jeune tout ça. C'est trop jeune ces servants-là, ça c'est pas manier sa pièce. En tant que vous me donnerez ça, il n'y a pas moyen d'aller. Il n'y a pas de plaisir. » Le lieutenant répondit avec humeur. « Mais je ne te dis pas de faire feu, moi, je ne dis rien. » « Ah bien, alors c'est différent, » dit Blaireau en bâillant. « Ah ben, mais moi non plus, je suis plus du jeu. Allez, bonsoir. » En même temps, il donna un coup de pied à sa pièce, la fit rouler en travers et se coucha dessus. Henriot tira son sabre qu'on lui avait ramassé. « Feras-tu feu ? » dit-il. Blaireau fumait et, tenant à la main sa mèche éteinte, répondit « Ma chandelle est morte, allez, va te coucher. » Henriot, suffoqué de rage, lui donna un coup de sabre à fendre un mur. Mais c'était un revers d'ivrogne si mal appliqué qui ne fit qu'effleurer la manche de l'habit et à peine la peau, à ce que je jugeais. C'en fut assez pour décider l'affaire contre Henriot. Les canonniers furieux firent pleuvoir sur son cheval une grêle de coups de poing, de pieds, d'écouvillon, et le malencontreux général, couvert de boue, ballotté par son coursier comme un sac de blé sur un âne, fut emporté vers le Louvre pour arriver, comme vous savez, à l'hôtel de ville où, qu'au final, le Jacobin le jeta par la fenêtre sur un tas de fumier, son lit naturel. En ce moment même arrivent les commissaires de la Convention. Ils crient de loin que Robespierre, Saint-Just, Couthon, Henriot sont mis hors la loi. Les sections répondent à ce mot magique par des cris de joie. Le carrousel s'illumine subitement. Chaque fusil porte un flambeau. Vive la liberté, vive la Convention, à bas les tyrans, sont les cris de la foule armée. Tout marche à l'hôtel de ville et tout le peuple se soumet ou se disperse au cri magique qui fut l'interdit républicain hors la loi. La Convention assiégée fit une sortie et vint des Tuileries assiéger la commune à l'hôtel de ville. Je ne la suivis pas, je ne doutais pas de sa victoire. Je ne vis pas Robespierre se casser le menton au lieu de la cervelle et recevoir l'injure comme il eut reçu l'hommage, avec orgueil et en silence. Il avait attendu la soumission de Paris au lieu d'envoyer et d'aller la conquérir comme la Convention. Il avait été lâche. Tout était dit pour lui. Je ne vis pas son frère se jeter sur les baïonnettes par le balcon de l'hôtel de ville. Le bas se cassait la tête et Saint-Just allait à la guillotine, aussi calme qu'en y faisant conduire les autres, les bras croisés, les yeux les passés au ciel, comme le grand inquisiteur de la liberté. Ils étaient vaincus, peu m'importait le reste. Je restais sur la même place et, prenant les mains longues et ignorantes de mon canonnier naïf, je lui fis cette petite allocution. « Ô Blaireau, ton nom ne tiendra pas la moindre place dans l'histoire, et tu t'en soucies peu, pourvu que tu dormes le jour et la nuit et que ce ne soit pas loin de Rose. Tu es trop simple et trop modeste, Blaireau, car je te jure que de tous les hommes appelés grands par les conteurs d'histoire, il y en a peu qui aient fait des choses aussi grandes que celles que tu viens de faire. Tu as retranché du monde un règne et une ère démocratique. Tu as fait reculer la révolution d'un pas. Tu as blessé à mort la République. Voilà ce que tu as fait, ô grand blaireau. D'autres hommes vont gouverner qui seront félicités de ton œuvre, et qu'un souffle de toi aurait pu disperser comme la fumée de ta pipe solennelle. On écrira beaucoup et longtemps et peut-être toujours sur le neuf Thermidor. Et jamais on ne pensera à te rapporter l'hommage d'adoration qui t'est dû tout aussi justement qu'à tous les hommes d'action qui pensent si peu et qui savent si peu comment ce qu'ils ont fait s'est fait et qui sont bien loin de la modestie et de la candeur philosophique. Qu'il ne soit pas dit qu'on ne t'ait pas rendu hommage, c'est toi, ô blaireau, qui est véritablement l'homme de la destinée. » Cela dit, je m'inclinai avec un respect réel et plein d'humiliation, après avoir vu ainsi, tout au fond de la source, un des plus grands événements politiques du monde. Blaireau pensa, je ne sais pas pourquoi, que je me moquais de lui. Il retira sa main des miennes, très doucement, par respect, et se gratta la tête. « Si c'était, » dit ce grand homme, « de faites votre bonté de regarder un peu mon bras gauche, seulement pour voir. »« Ah, c'est juste, » dis-je. Il ôta sa manche et je pris une torche. « Remercie Henriot, mon fils, » lui dis-je. « Il t'a défait des plus dangereux de tes hiéroglyphes. Les fleurs de lys, les bourbons et madeleine sont enlevés avec l'épiderme et après-demain, tu seras guéri et marié. » « Si tu veux. » Je lui serrai le bras avec mon mouchoir, je l'emmenai chez moi, et ce qui fut dit fut fait. De longtemps encore, je ne pus dormir, car le serpent était écrasé, mais il avait dévoré le signe de la France. Vous connaissez trop votre monde pour que je cherche à vous persuader que Mademoiselle de Coigny s'empoisonna et que Madame de Saint-Aignan se poignarda. Si la douleur fut un poison pour elle, ce fut un poison lent. Le neuf Thermidor les fit sortir de prison. Mademoiselle de Coigny se réfugia dans le mariage, mais bien des choses m'ont porté à croire qu'elle ne se trouva pas très bien de ce lieu d'asile. Pour Madame de Saint-Aignan, une mélancolie douce et affectueuse, mais un peu sauvage, et l'éducation de trois beaux enfants, remplir toute sa vie et son veuvage dans la solitude du château de Saint-Aignan. Un an environ après sa prison, une femme va me demander de sa part un portrait. Elle avait attendu la fin du deuil de son mari pour me faire reprendre ce trésor. Elle désirait ne pas me voir. Je donnai la précieuse boîte de maroquin violet et je ne la revis pas. Tout cela était très bien, très pur, très délicat. J'ai respecté ses volontés et je respecterai toujours son souvenir charmant, car elle n'est plus. Jamais aucun voyage ne lui fit quitter ce portrait, m'a-t-on dit. Jamais elle ne consentit à le laisser copier. Peut-être l'a-t-elle brisé en mourant, peut-être est-il resté dans un tiroir de secrétaire du vieux château, où les petits-enfants de la belle duchesse l'auront toujours pris pour un grand-oncle. C'est la destinée des portraits. Ils ne font battre qu'un seul cœur, et quand ce cœur ne bat plus, il faut les effacer. »